Où va-t-on dans la relation République démocratique du Congo-Belgique? Depuis quelques semaines, les gestes de tension diplomatique se multiplient entre les deux pays. La Belgique a décidé de réorienter une de ses enveloppes d'aide au développement directement à un certain nombre d'ONG opérationnelles sur le terrain, plutôt que de passer par le gouvernement de la RDC. De son côté, en représailles, la RDC a demandé à l'agence de coopération belge Annabelle d'arrêter ses activités sur son territoire. La RDC a aussi fait fermer le service diplomatique de l'Union européenne Maison Schengen à Kinshasa, a réduit à la baisse le nombre de vols de la compagnie aérienne Brussels Airlines de 7 à 4 par semaine, a fermé son consulat d'Anvers et exige à la Belgique de fermer ses deux consulats de Goma et de Lubumbashi. Où va-t-on? C'est le premier thème de tribune de presse de ce soir. Autre sujet, c'est cette nouvelle vague de tueries en Ituri entre Emma et l'Hindou, les principales communautés de cette province de RDC. Sur plusieurs jours, il y a eu affrontement entre ces deux communautés et les dégâts humains sont déjà importants à ce jour. Les chiffres parlent d'une vingtaine de morts et presque la même chose pour les blessés. Des actualités que nous allons analyser et pour le faire, retrouvons ce soir notre sélection de la semaine dernière. Gaston Mouchid, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes journaliste directeur général de la radio-télévision Manika Kolwezi, province de Lualaba. Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa. Marcel Ngoy, bonsoir.
Bonsoir.
Bon anniversaire à votre journal qui, depuis mercredi, totalise 17 ans d'existence. Bon anniversaire.
Merci.
Et enfin, Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Donat, bonsoir à tous.
Vous aussi à Kinshasa, vous êtes directeur des informations numériques à la radio-télévision Groupe L'Avenir en sigle émettant depuis Kinshasa. Vous aussi, on ne va pas dire combien d'années vous totalisez, mais vous avez déjà quelques années d'existence. Bonsoir.
Plusieurs années.
Tribune de la presse ce soir, c'est aussi Guy Maté à la réalisation, Jean-Noël Mokondo à la technique, Donat Madimba c'est moi. Bienvenue à tous dans votre émission. Et pour organiser les idées, tout de suite, la revue de presse avec Alain Hirong.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Commençons par la décision du gouvernement congolais de réduire la fréquence des vols de Brussels Airlines en RDC. Kinshasa continue de bomber le torse face à la Belgique, constate le potentiel, qui rapporte que le gouvernement congolais vient de frapper encore la Belgique en ordonnant la réduction des vols de la compagnie SN Brussels Airlines à destination de la RDC de 7 à 4 navettes. Une décision regrettable, surtout pour nos passagers, a réagi de son côté. Kim Daenen, porte-parole de Brussels Airlines, rapporte pour sa part l'avenir. D'après lui, poursuit les confrères, la compagnie travaille sur un nouveau schéma de vol qui devra être approuvé par les autorités congolaises. Pour le phare, Kinshasa s'est trompé de cible dans sa bataille contre Bruxelles en s'attaquant à Brussels Airlines. En fait, Kinshasa vient de frapper plutôt l'Allemagne, révèle le quotidien. Précisons que c'est la compagnie aérienne allemande Lufthansa qui est depuis 2016 propriétaire à 100% de SN Bruxelles. Dans un autre registre, La Prospérité rapporte que les membres du CASA se disent consternés d'apprendre que les professeurs Isidore Ndaiwel, Thierry Landou Mayamba et Justin Okana et d'autres membres du comité laïque de coordination CLC sont persécutés pour avoir manifesté et réclamé l'organisation des élections en RDC. En rapport justement avec les actions initiées récemment par le CLC, KinshasaTimes.cd fait savoir qu'une messe en mémoire des victimes de la marche du 21 janvier est prévue vendredi 9 février dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. La nomination de Mgr Fridolin Ambongo a aussi été commentée dans les journaux quinois. Le pape François a nommé Mgr Fridolin Ambongo comme archevêque coadjuteur à l'archidiocèse de Kinshasa. L'annonce a été faite par le cardinal Monsengo au cours d'une conférence de presse mardi dernier, renseigne La Prospérité. Le quotidien présente celui qui a le droit de succéder immédiatement à Monsengo en cas de décès ou démission comme un dur à cuire et une parfaite doublure de Monsengo. Terminons par l'Église du Christ au Congo qui dit être sans nouvelles de son pasteur François-David Ekofo. Dépêche.cd mentionne une situation confuse sur la destination réelle du pasteur, étant donné que certaines sources prétendaient que l'officiant du culte en mémoire du feu Laurent Désiré Kabila serait arrivé aux États-Unis avec sa famille. Mais voilà qu'un communiqué de la présidence de l'Église du Christ au Congo vient confirmer l'insécurité de cet homme de Dieu. L'homme est introuvable selon l'avenir qui se réfère au communiqué de l'ECC. Dans le document publié, la présence nationale de l'ECC a dit être sans nouvelles de son pasteur depuis le 4 février 2018 et demandé aux autorités de ne ménager aucun effort pour informer l'Église de sa situation.
Merci beaucoup Alain Hirung. Gaston Mouchid, la mise en bouche continue avant d'entamer nos deux sujets du jour ou du soir. Directeur général de la radio-télévision Manic en province de Lualaba, Gaston Mouchid, à part nos deux thèmes retenus pour l'émission de ce soir, quelle autre actualité de cette semaine mérite un petit commentaire introductif de votre part?
Donna, l'actualité au Lualaba, c'est la tenue du grand rendez-vous des investisseurs miniers en Afrique qu'on appelle Indaba. Indaba qui s'est ouvert le lundi au Cap en Afrique du Sud et s'est clôturé le jeudi dernier. À la conférence minière Indaba, lundi, Albert Yuma, président du patronat congolais, mais aussi patron de la société minière publique Gécamines, a annoncé que le partenariat minier de celle-ci serait revu au bénéfice de la Gécamines, société publique à partir du second trimestre 2018. Et dans son intervention au cours de ces mêmes assises, Mouyège Mangez-Mans, gouverneur de la province minière du Lualaba, a souhaité que le mine accompagne l'agriculture et le tourisme pour accélérer les processus de développement. Pour lui, diversifier ainsi l'économie éviterait une très grande dépendance aux caprices des variations des cours des taux d'échange et des taux de métaux dont est dépendant le Lualaba, province minière.
Merci beaucoup Gaston Mouchid pour cette actualité qui concerne directement la province dans laquelle vous vivez. Et Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité paraissant à Kinshasa, votre apéritif de ce soir. Déjà signalons, nous l'avons dit en introduction, que La Prospérité, le quotidien paraissant à Kinshasa, a totalisé depuis mercredi 17 années d'existence.
Oui, je voudrais partager ici la fière chandelle que je restitue à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur pierre à l'érection de cet édifice. J'ai toujours considéré La Prospérité comme une œuvre gigantesque, une œuvre de l'esprit à laquelle participent tous ceux qui sont même ce qu'on appelle les héros dans l'ombre. Merci à tous et je souhaite que cette émission puisse contribuer davantage à ce que nous devons avoir comme débat. Je voulais aussi ajouter le dossier des obsèques de Deschade, Thérèse Deschade Kapangala. Cette aspirante religieuse catholique qui a été fauchée lors des événements du 21 janvier, dont les obsèques commencent aujourd'hui. Et donc, je crois que nous allons en parler en long et en large par rapport à la gestion, à la problématique de la gestion des manifestations publiques, des respects des libertés. Et donc, j'aimerais aussi ouvrir une brèche sur la destruction. Aujourd'hui, qu'on constate des délabrements très avancés de l'état des routes, des accidents qui se multiplient dans la ville de Kinshasa, les immondices qui continuent à constituer des montagnes et qui créent des situations parfois imprévisibles. Et à cela, il faut ajouter les choléras et autres. Donc, des cas sur lesquels nous pouvons toujours d'une manière ou d'une autre ouvrir des parenthèses pour en parler.
Jean-Pierre Kayembe, directeur des informations numériques à la radio-télévision Groupe L'Avenir RTG en sigle, à qui nous souhaitons un rapide rétablissement. Il participe d'ailleurs à cette émission tout en continuant de se soigner. Jean-Pierre Kayembe, votre avant-goût.
Merci beaucoup Donna. Deux faits principaux ont retenu mon attention cette semaine finissante. D'abord, en tant que chrétien catholique, c'est avec joie que j'ai accueilli la désignation, mieux la nomination de Monseigneur Fridolin Bongo comme évêque coadjuteur de Kinshasa. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cet homme des convictions qui ne ménage aucun effort pour se sacrifier pour l'œuvre des dieux. Et je sais que l'Église catholique pourra, encore l'Église catholique de Kinshasa pourra bénéficier de ses nombreuses expériences aussi riches et variées. Et je crois que la collaboration pendant ces temps intermédiaires avec l'archevêque sortant, Laurent Monsengo Passignan, sera bonne. L'autre fait, c'est l'arrivée du colonel déserteur, John Tshibangu, lui qui promettait de faire basculer, faire couler encore du sang au pays. On sait tous qu'il avait accordé 45 jours au président Kabila pour qu'il démissionne. John Tshibangu, on connaît son histoire. Il a déserté les FRDC en 2012. Aujourd'hui, grâce à la collaboration qui existe entre les services de sécurité de la RDC et de la Tanzanie, il a été appréhendé. Et j'ose croire qu'il va bénéficier d'un procès équitable et que la justice sera donc rendue quant à ce.
Alors, actualité à suivre donc. Notre premier sujet d'échange ce soir, la Belgique a décidé depuis janvier de réorienter une de ses enveloppes d'aide au développement directement à un certain nombre d'ONG opérationnelles sur le terrain plutôt que de passer par le gouvernement de la RDC. De son côté, la RDC, en représailles, a demandé à l'agence de coopération belge Annabel d'arrêter ses activités sur son territoire. La RDC a aussi fait fermer le service diplomatique de l'Union européenne Maison Schengen à Kinshasa, a réduit à la baisse le nombre de vols de la compagnie aérienne Brussels Airlines de 7 à 4 par semaine, a fermé son consulat d'Anvers et exige à la Belgique de fermer ses consulats de Goma et de Lubumbashi. De nombreux commentaires critiquent ces décisions de la RDC, mais le porte-parole de la majorité présidentielle, lui, estime que c'est la Belgique qui a dépassé les bornes. André Alain Atundu au micro d'Alain Irung.
Vous allez me permettre de mettre un peu de temps à rechercher l'étiologie ou la criminogénèse de cette situation. Elle provient en réalité de la décision unilatérale de la Belgique de modifier fondamentalement les règles de relations diplomatiques et de partenariat en matière de coopération. Ceci a causé un préjudice d'abord moral et politique immense en raison des motivations données à cette décision. La République démocratique du Congo n'a fait que réagir de façon logique et j'allais dire rationnelle pour protéger les intérêts de la République démocratique du Congo face à la Belgique, c'est-à-dire d'abord sa souveraineté et la dignité de son peuple, et enfin rétablir l'honneur souillé du pays et de la dignité de notre peuple à cause des motivations à la base de cette décision.
Entre-temps sur terrain, les conséquences de ces représailles congolaises se font déjà sentir. Les consulats de la Belgique à Goma et à Lubumbashi sont fermés depuis lundi et les Congolais réclament déjà une normalisation rapide des relations entre les deux pays. Jean Gandou, reportage.
La décision de la RDC de voir la Belgique fermer ses consulats de Goma et de Lubumbashi est déjà d'application dans la capitale du cuivre. Les requérants qui arrivent au consulat sont accueillis par un message affiché aux valves. Nous citons « Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le consulat général de la Belgique à Lubumbashi sera fermé à partir du 6 février 2018 pour une période indéterminée. » Fin de citation. Ce message brise les cœurs de plusieurs. Le cas de cette femme qui caressait le rêve d'aller visiter ses enfants.
Moi, j'ai des enfants que je n'ai pas vus, ça fait 3 ans. Je me suis décidée cette année d'aller les voir, mais c'est compliqué. Je ne sais pas quoi faire.
Ne sachant quoi faire, elle a rebroussé chemin, mort dans l'âme. Pour cet autre, les récurrents sont désormais obligés de se rendre à Kinshasa ou dans les pays limitrophes pour chercher les visas. Pour lui, cela sera coûteux et compliqué. Il propose que les deux pays, à savoir la Belgique et la RDC, harmonisent leurs vues pour le bien de leurs populations respectives.
Les gouvernements devraient collaborer et trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas une chose difficile, d'autant plus qu'ils ont des relations depuis plusieurs années, même des décennies. Il peut y avoir des frictions, c'est vrai, mais je pense que les populations ne doivent pas être touchées par des mesures gouvernementales.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Marcel Ngoy, cette nouvelle crise entre RDC et Belgique, vous l'analysez comment?
Oui, je note qu'il y a là une rupture inattendue, impromptue.
Déjà?
Brutale.
Déjà?
Des relations. Cette rupture a des conséquences et des dégâts protéiformes.
On peut déjà parler de rupture, là, à ce stade-ci?
Oui, mais la rupture est là. Lorsque vous dites que vous prenez des mesures de représailles et vous fermez le consulat à Anvers, mais l'Anvers, c'est la capitale mondiale du diamant. Nous avons une économie qui par nature, est extravertie. Notre économie dépend essentiellement et en grande partie de recettes minières. Et l'un des minéraux importants que nous avons, c'est les diamants. Vous fermez le consulat. Donc, vous comprenez que la décision pensée ou prise par les autorités est une décision qui, d'une manière ou d'une autre, va préjudicier l'économie du pays en termes de rentrée en devise. Ce n'est pas tout. Lorsque vous dites que vous voulez frapper la Belgique et vous frappez la maison Schengen qui, en réalité, n'est qu'une sorte de guichet unique, non pas seulement pour la Belgique, mais pour 17 États de l'Union européenne, plus la Norvège. Et donc, vous ne frappez pas que la Belgique, vous frappez en même temps les autres pays de l'Union européenne, plus la Norvège. Donc, si vous dites que vous frappez Brussels Airlines, alors que Brussels Airlines est devenue une compagnie, une propriété de Lufthansa. Lufthansa qui est une compagnie aérienne allemande. Donc, vous avez affaire visiblement à cette compagnie allemande et donc aux intérêts d'origine allemande qu'il faut gérer. Donc,
Marcel Ngoï, pensez-vous que, un peu comme certains commentaires le disent, que la RDC n'a pas tenu compte d'un certain nombre de détails, parmi lesquels, par exemple, de frapper une compagnie qui porte en son sein une dénomination belge, mais qui appartient à un autre pays. Pensez-vous que la RDC ne connaissait pas ces détails et que peut-être dans une agitation ou bien dans la précipitation a pris des décisions qui la flagellent elle-même?
Oui, mais même là, il y a un problème. On ne gère pas un pays sur fond de d'état d'âme. Il faut en principe prendre les décisions en tenant compte de la réalité. Par exemple, si on savait que dans Brussels Airlines, les intérêts sont l'actionnariat majoritaire est détenu par Lufthansa, est-ce qu'on aurait dû prendre cette décision? En réalité, qu'est-ce qu'on vise? D'après le porte-parole de la majorité qui a parlé tout à l'heure, il dit qu'il fallait redorer les blasons ternis de l'image de la République démocratique du Congo, reconquérir la dignité et retrouver la souveraineté. Mais la souveraineté, qui punit-on en fermant la maison Schengen? Quelles sont les principales victimes d'une telle mesure? Parce qu'en fait, très prochainement, non seulement qu'il y a l'effet contagieux lié au fait que maintenant, au lieu de faire face seulement à la Belgique, on a affaire à 17 pays de l'Union européenne plus la Norvège, mais il y a ces problèmes de Congolais qui ont des familles dans ces différents pays. Il y a même la plupart des autorités congolaises qui ont leurs familles dans ces pays-là. Il y a des gens qui font se faire soigner dans ces pays-là. Donc, vous avez vu, c'est que celle qui a Lubumbashi dit qu'elle voulait se rendre dans un des pays européens, mais là, elle est censée requalifier, revoir son programme. Donc, il y a un problème de chercher maintenant les visas qu'on avait ici, de commencer à chercher à traverser, soit à donner un peu plus, à revoir. Donc, ce sont des conséquences qu'il fallait imaginer d'avance.
Mais alors,
je pense que la décision me paraît hâtive.
La Belgique qui décide comme ça unilatéralement de ne plus faire parvenir les fonds que le gouvernement a
percevé. Mais quelles sont les motivations de la Belgique? La Belgique dit qu'il y a eu usage disproportionné des forces, qu'il y a eu répression sanglante des manifestations publiques, et que ces manifestations publiques sont pourtant reconnu dans la constitution du pays. Le droit de manifester est un droit qui est consacré dans la constitution. Ce qu'il faut, ce n'est pas d'étouffer ni d'annihiler les efforts de ceux qui veulent marcher, c'est plutôt d'encadrer.
Jean-Pierre Kayembe, la RDC a-t-elle fait ce qu'elle devait faire ou dans ce dossier-ci a-t-elle un peu gaffé quand même?
Écoutez, Donat, en suivant l'aîné Marcel, pour qui j'ai beaucoup de considération, j'ai l'impression que les Congolais ne se préoccupent plus de leur dignité. De quel droit la Belgique, 80 fois la RDC, doit à tout moment se préoccuper de la situation politique, jusqu'au point de donner son avis, par exemple, sur la nomination d'un premier ministre? Vous vous souvenez encore de déclarations de Bibi Reinders au lendemain de la nomination de Bruno Tshibala, ce qui a même conduit à la suspension de la coopération militaire, vous le savez.
Jean-Pierre Kayembe, permettez-moi à ce stade de vous relancer tout de suite, mais dans ce cas-ci, la Belgique n'a rien fait à la RDC. Elle a réorienté son propre argent vers d'autres destinations. Pourquoi la RDC se fâche-t-elle? Ce n'est pas l'argent de la RDC et la Belgique n'a pas de leçon à recevoir de la RDC quant à l'utilisation de son propre argent.
Ici, il est question de dignité. Il est question de souveraineté. Il ne faut pas faire du chantage pour 250 millions de dollars. Vous dites, ok, vous, gouvernement, vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas cela. Je préfère donner cet argent à des organisations non gouvernementales. En quelque sorte, c'est un manque de respect crasseux que personne au monde, même la Belgique, ne l'aurait pas accepté. Et je considère que en tapant, par exemple, sur la maison Schengen, en frappant sur en décidant de fermer les consulats, en décidant par exemple de fermer les labels, la RDC ne s'est pas trompée des cibles.
Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu...
Je vous explique, contrairement à ce que mon aîné Marcel a dit tout à l'heure, la Belgique, bien que Brussels Airlines soit à 100% maintenue par Lufthansa, la Belgique a des acquis qu'elle tient à préserver dans ça. Il y a d'abord, un, la liaison avec l'Afrique. Deux, on considère que Brussels Airlines, bien qu'acquise par Lufthansa, devrait garder ce nom pendant 2 à 3 ans. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, il y a le hub de Zaventem qu'il faut garder. Et tout ça, quand il n'y a plus de liaison, des trafics aussi intenses, ça affecte aussi bien du côté congolais que du côté belge. Ça, c'est très important.
Mais
vous avez parlé de consulats et consorts. Moi, je crois que ici, c'est une question de réciprocité. Quand vous manquez du respect, les Belges continuent à penser que 60 ans plus tard, ils sont toujours obligés de s'immiscer. Ils sont toujours obligés, mais vous pouvez qu'avoir la proximité qu'il y a dans la conduite de M. Renders avec certains milieux radicaux de l'opposition politique. On sait tous que M. Renders prend ses causes. Il est lui le géniteur, c'est pas le parrain de Jean Val, et on connaît tout ce qui s'ensuit. Ici, en lisant d'ailleurs le carnet des collègues de Bratman ce matin, elle estimait qu'il n'était pas aussi indispensable que la Belgique s'affiche du côté des radicaux. La Belgique devrait plutôt, en tant qu'ancienne, la RDC étant son ancienne colonie, elle devrait plutôt être neutre, être au centre. Mais voyez-vous, maintenant la RDC va se tourner vers la France. Je crois que les heures perdues de Brussels Airlines, je ne suis pas surpris qu'en France puisse le reprendre. Vous savez qu'on a arrêté avec la coopération militaire, mais entre-temps, du côté français, les choses évoluent. Et en même temps, la Belgique n'essaie pas assurer du soutien aussi de ses partenaires extérieurs. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les relations franco-congolaises et les relations belgo-françaises, vous avez l'impression que la Belgique s'isole. Mais enfin, parce que vous parlez de la maison Schengen, plus de 8 ans dans ce pays, on n'avait pas la maison Schengen. On vous dit que c'est une expérience inédite en Afrique centrale. Avant 2010, où est-ce que les Congolais prenaient leur visa? Et puis, d'ailleurs, on sait tous que la Belgique a tenté de s'accaparer de cette histoire au point que certaines ambassades, certains pays commençaient à délivrer les visas au niveau de leurs ambassades.
Alors,
donc, je crois que la RDC a frappé là où ça fait le plus mal. Il fallait le faire, même si ça va toucher quelques Congolais qui travaillent. Il faut reconnaître que dans Enabel, des Congolais qui travaillent, il faut reconnaître qu'à la maison Schengen, des Congolais, certains Congolais, ils sont. Mais parce qu'il est question des dignités d'un pays, parce qu'il est question de l'honneur, de la souveraineté, il faut le faire, quelles qu'en soient les conséquences.
J'apprécie beaucoup votre émotion, Jean-Pierre, mais que dites-vous de l'émotion de toutes ces personnes qui ne peuvent plus avoir... D'ailleurs, les passeports doivent encore être récupérés, en espérant qu'ils les récupèrent, dont les voyages, pour certains, voyages vitaux. Il y a des gens qui devaient voyager pour des raisons de santé, il y a des gens qui travaillent et qui doivent percevoir leur argent de leur déplacement. Mettez-vous un peu à leur place. J'ai apprécié votre émotion tout à l'heure, mais mettez-vous à la place un peu de la dame du reportage de tout à l'heure. Et ils sont nombreux comme ça, ils le seront encore à Goma, à Lubumbashi. Je ne comprends pas très bien cette question d'honneur dont parle la RDC, ni les représailles, la réciprocité dont la RDC parle, quand on sait que les Angolais ont tabassé les Congolais régulièrement, les refoulant à mort dans des conditions affreuses. Le Congo-Brazza fait la même chose, tous les pays limitrophes font la même chose, et jamais les gouvernements, les autorités congolaises n'ont parlé de honneur, de réciprocité et tout ça. Est-ce que c'est pas un peu bizarroïde?
Deux commence toujours par un. Encore une fois, je ne parle pas avec passion, mais j'analyse les choses comme elles se présentent. Ici, pour ce qui est de nos compatriotes qui doivent voyager, je veux dire que la Belgique pourrait accorder des visas pour des durées très courtes. Mais entre-temps, les discussions sont en cours. Vous avez suivi la dernière interview de ministre Renders à RTBF. Donc, les discussions sont en cours. Je crois que la finalité aurait été si les deux pays avaient rappelé leurs ambassadeurs. j'ai appris que l'ambassadeur belge avait été rappelé pour consultation, mais je crois que qu'une solution est toujours en vue, mais dans l'entretemps, ce pays profite aussi de la région du visa. Chaque pays devra s'assumer. J'ai appris que les discussions sont en cours au niveau de l'Union européenne pour que l'on puisse restructurer Schengen, que Schengen ne soit pas seulement une responsabilité belge, que l'on puisse, si possible, restructurer les choses. Donc, de ce point de vue, mais entre-temps, il y a des gens qui sont malades. Ça, c'est regrettable. C'est des dégâts, des conséquences qu'il faut déplorer. Mais encore une fois ici, je vous rappelle que qu'on ne doit pas prendre de mauvais exemples parce qu'on a dû tabasser des Congolais en Angola, parce que ceux de nos compatriotes qui se trouvent au Congo de la façon ont été victimes de traitements inhumains, qu'il faut accepter que ceci ou cela continue infini. Non, en tout cas, à un moment donné, il faut qu'on se réveille et qu'on dise trop, c'est trop.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on revient à vous tout à l'heure. Gaston Mouchid, ça fait un moment que vous nous suivez, votre réaction de tout ça.
Jean-Pierre m'étonne beaucoup quand il parle de la dignité, de la souveraineté, de l'ingérence. Il faut être en mesure de comprendre que nous sommes dans un pays qui se dit démocratique. Et quand on parle de la souveraineté, ce n'est pas le droit à l'arbitraire, c'est la protection des citoyens. Nous sommes dans un pays, le seul au monde, où les pouvoirs qui payent à un enseignant, un fonctionnaire de l'État moins de 100 dollars, peut se permettre de lui vendre un passeport, biométrique soit-il, à plus de 200 dollars, alors qu'il sait que ce qu'il lui paye mensuellement ne convient pas. Nous parlons de dignité. Et puis, la Belgique, parce qu'on parle de réciprocité, quel est le tort de la Belgique? C'est d'avoir demandé, d'avoir condamné la répression de manifestants, les gens qui ont été tués le 31 décembre. Les gens qui ont été tués le 21 janvier 2018, tout simplement parce qu'ils ont marché, il faut les tuer. Quand on a cette répression, il faut faire une réciprocité. J'ai suivi le porte-parole de la majorité qui parle de la dignité, qui parle d'une décision bonne, viable et même légitime. De nous à la Belgique, qui doit à l'autre? Est-ce que nous contribuons au budget de la Belgique? Est-ce que nous intervenons d'une façon ou d'une autre en Belgique? Et si nous demandons, si nous recevons de la Belgique, nous devons être en mesure de justifier. La Belgique a un droit de donner directement au gouvernement ou de passer par les ONG. On ne peut pas se refuser tout ça. Et puis, pour soutenir un bras de fer comme celui-ci, il faut avoir ou évaluer les moyens. La RDC et quand on ferme la maison Schengen, c'est une guerre contre les 17 pays de l'Union européenne et la Norvège. Est-ce qu'on peut soutenir cette riposte? L'Union européenne intervient régulièrement dans différents aspects de la vie des Congolais. Mais nous, combien nous donnons à l'Union européenne mensuellement ou annuellement? Il faut être en mesure de se regarder dans le miroir et de ne pas faire ce qu'on a fait d'ailleurs longtemps avant. Le chef de l'État a parlé des mobutistes qui n'a pas pu transformer. C'est des mobutistes qui sont autour de lui, qui lui demandent de prendre des mesures impopulaires. Et on ne peut pas prendre une mesure qui préjudicie les peuples pour lesquels on doit protection. Aujourd'hui, la population congolaise est en train de souffrir. Vous avez évoqué les problèmes d'Anvers. Aujourd'hui, on va fermer, c'est bien, mais ces compatriotes-là qui n'auront pas d'assistance consulaire là-bas parce que tout simplement, on a pris une mesure impopulaire. On a parlé des gens qui sont à Lubumbashi qui souffrent. Aujourd'hui, il doit chercher un visa. Il doit payer, en plus de frais de visa, il doit chercher les transports. Donc, il doit aller en Zambie, s'il vit au Katanga. S'il est à Kinshasa, il doit pouvoir aller à Brazzaville ou il va aller dans d'autres pays. Et là, les requérants doivent dépenser des sous supplémentaires pour son voyage, pour son logement et pour sa restauration. Est-ce que vous voyez la mesure ou la grandeur ou la valeur de la décision que le gouvernement a prise? On parle aujourd'hui des réductions de nombre de vols pour SN qui n'appartient d'ailleurs pas au gouvernement belge parce qu'on a attaqué l'Allemagne. Et c'est ça de décisions qui sont prises par émotion parce que ils pensent que les autres on s'en fout. J'ai suivi Alain Atundu qui dit quand on envoie les militaires en guerre, il y en a qui meurent. Mais est-ce que la souveraineté, les pouvoirs, doit protéger sa population ou bien doit la laisser comme ça se débrouiller tout seul? Nous pensons qu'il faut penser à la population. Le peuple congolais est perdant dans ces mesures, dans ce bras de fer. On comprendrait qu'il y ait une faute que la Belgique ait commise, mais la Belgique est du côté de la population. Alors, aujourd'hui, les paramètres de la diplomatie moderne veulent que le pays membre respecte les droits de l'homme. Et quand on ne les respecte pas, on n'a pas le droit de dire que la mesure est injuste, on doit une mesure de réciprocité. Mais si on ne peut pas soutenir cette riposte, alors il y a un problème.
Alors Gaston Mouchid, le débat continue. Vu que ce feuilleton n'est pas encore clos, probablement qu'on y reviendra encore. Faisons plutôt le pas vers le deuxième thème de notre tribune de presse. Alors ce deuxième thème de notre tribune de presse ce soir rapporte cette nouvelle vague de tuerie à Ituri entre Ema et Lendu, les principales communautés de cette province de la République démocratique du Congo. Sur plusieurs jours, des affrontements sont signalés entre les deux communautés et les dégâts humains sont déjà importants à ce jour. Les chiffres ont parlé d'une vingtaine de morts et presque autant de blessés le week-end dernier. 5 nouvelles morts entre lundi et mercredi lors des interventions des forces de l'ordre pour stopper les attaques intercommunautaires dans le territoire de Djougou. Plusieurs maisons sont également incendiées dans les villages par des assaillants selon ONG sur place. L'armée elle-même parle de 2 morts et d'une arme AK-47 récupérée. Explication ici de Sadiki Aboubakar.
Un groupe d'assaillants a incendié des maisons après en avoir pillé d'autres ce mercredi matin à Jina, à 45 km au nord de Bounia sur la RN27. Cette information de la société civile locale est confirmée par l'administrateur du territoire de Djougou. Alfred Bongwalanga ne donne cependant pas de précision par rapport au bilan. Le porte-parole des FARDC à Ituri affirme que leurs éléments ont dû intervenir pour dissuader les assaillants. D'autre part, l'ONG Kouardo rapporte que 2 militaires de la force navale, 2 policiers et 1 civil sont morts au bord du lac Albert, notamment dans les localités de Gobu, Songamoya, Songambilu et Tara. C'est quand ils étaient confrontés aux assaillants lundi et mardi. Le porte-parole des FARDC à Ituri parle, lui, de 2 morts. Pour le lieutenant Jules Ngongo, il s'agit d'un militaire de la force navale et d'un assaillant. L'armée a réussi à récupérer une arme AK-47 des mains des assaillants, selon la même source. Entre-temps, les déplacements des populations sont signalés ça et là. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Marcel Ngoy, journaliste éditeur du journal La Prospérité, paraissant à Kinshasa, 17 ans déjà depuis son existence, ce journal, a encore des disputes meurtrières intercongolaises, Marcel.
Oui, moi j'ai toujours dit que le recours aux armes, c'est une voie extrême à laquelle les gens s'intéressent lorsqu'ils voient qu'il n'y a plus de possibilité de résoudre ces problèmes-là de façon pacifique. Et que tant que la politique globale du pays n'aura pas pris la bonne orientation, il est toujours possible qu'on continue à enregistrer des violences, à enregistrer des cas de dérapage, des tueries, des massacres. Je crois que le problème de notre pays est un problème éminemment politique. Lorsque l'orientation est donnée dans l'accord de la Saint-Sylvestre, pour qu'on puisse vider les divergences politiques par la décrispation, les mesures de décrispation politique, ça permet d'atténuer, d'apaiser les tensions. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, il y a un comité laïque de coordination qui lance des appels aux manifestations et que ces leaders sont traqués, et que certains membres du clergé catholique sont traqués, certains pasteurs comme François-David Ekofu, traqués, est-ce que ça peut ramener l'apaisement? Nous parlons bien sûr de ce qui se passe en Ituri, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, on parlait du Kasaï. Ces problèmes interethniques, les Ema et les Lendu, ça a toujours existé. Souvenez-vous que quand on est allé à Sun City, au retour de Sun City, on a tenu ici à Kinshasa une conférence sur la paix en Ituri. Toute une conférence seulement sur l'Ituri. L'Ituri à ce moment-là faisait partie de la province orientale. Aujourd'hui, l'Ituri c'est une province à part entière, avec ses réalités, avec ses réalités spécifiques. Donc, en quelque sorte, le problème qui est là, interethnique, on peut y aller dans la genèse des faits. On fera la comptabilité macabre des personnes qu'on a tuées. Mais ce même problème continue à se passer à Beni. On n'a jamais étudié de fond en comble la genèse de ce dossier pour vider ça.
Mais alors,
les casques bleus tanzaniens ont perdu la vie.
Selon vous,
donc, pour
qu'est-ce
moi,
qu'il y a à la base de ça et quelle solution?
Pour moi, la problématique des groupes armés et sur l'ensemble du pays, il y en a plus de 132 répertoriés par les Nations Unies. C'est un phénomène qui vient lorsque, politiquement, on n'arrive pas à avoir une orientation qui rassure. Lorsque les gens estiment qu'ils sont pas, ils se sentent pas suffisamment intégrés, associés. Lorsque la politique du pays, elle-même, de façon globale, n'est pas bien orientée, eh bien, on tombe dans ces pièges-là. Ici, moi, je pense que la meilleure façon d'atténuer d'apaiser les esprits, c'est de revenir aux fondamentaux de l'accord.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, aujourd'hui, revoir qu'est-ce qui était prévu au centre interdiocésain et remettre les choses en ordre. Je ne veux pas dire ici que les Emma et les Lendo se battent à cause de l'accord. Mais je dis que je crains que ce qui se passe à Ituri ne se généralise. Parce que l'insécurisation généralisée du pays peut aussi conduire à la non-tenue des élections. Et donc, à la déflagration des conditions de la coexistence spécifique entre les différentes communautés du pays. Donc, je suis en train de penser qu'il faut revenir aux fondamentaux, au pied de l'accord, pour voir qu'est-ce qui était prévu. L'UNESCO qui a compris cela. Les guerres naissent dans les esprits des gens. Si vous voulez aujourd'hui, avoir une paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est d'installer dans les esprits des gens la culture, cette culture de paix.
Merci. Gaston Mouchi, journaliste, directeur général de Radio-Télévision Manika à Kolwezi, en province de Lualaba. Alors, l'Ituri a beaucoup de ressources minières, le diamant, l'or et beaucoup d'autres que je ne citerai pas. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui est à la base des bagarres récurrentes entre les deux principales communautés, Emma et Lendo?
Je suis d'avis que cette guerre est instrumentalisée avec la compréhensible intention de tirer les dividendes. Je rappelle un peu que la région a été ensanglantée par le trouble entre les deux ethnies depuis longtemps. En 1911, en 1953, en 1966, en 1972, en 1999 et en 2002, la RDC a vécu des troubles de ce côté-là. Il s'agit chaque fois, au départ, des conflits pour les terres entre Emma, souvent éleveur, et Lendu, généralement agriculteur. Et vous allez vous rappeler qu'en 1999, les conflits avaient été les plus meurtriers. Mais, au final, on s'est rendu compte que ces conflits avaient été instrumentalisés par l'Ouganda et les Rwandais qui se livraient leur propre guerre pour le contrôle des richesses de cette région.
Mais est-ce que cette fois-ci, Gaston, est-ce que cette fois-ci, c'est toujours les voisins, les pays limitrophes qui sont à la base ou pas?
Non, cette fois-ci, parce que nous n'avons pas encore de conclusion. On nous venait de voir les gens s'entretuer. Il y a des villages entiers qui sont décimés et même brûlés. Les conclusions vont sortir, mais il y a toujours quelque part des gens qui instrumentalisent, qui sont parfois envoyés par d'autres pays, même à l'intérieur. Comment peut-on laisser les gens jusqu'à s'entretuer, jusqu'à brûler les villages, jusqu'à tuer, à continuer à tuer? Il y a quelque part là l'absence de l'État dans cette région. J'imagine que l'État devrait prendre ses responsabilités. Nous avons les services de renseignement. Chaque fois qu'il y a une manifestation, on voit des militaires, des policiers, des chars de combat, des tanks pour barrer la route aux manifestants. Mais quand il y a des tueries, quand il y a des problèmes qui exigent la présence de l'État, on ne le voit pas.
Jean-Pierre Kayembe, responsable des informations numériques à Radio-Télévision Groupe L'Avenir, vous avez entendu Gaston Mouchi, les commentaires allant dans le même sens sont nombreux. Est-ce qu'il y a absence de l'État ou pas?
D'abord, je voudrais exprimer ma compassion à l'endroit de compatriotes qui sont morts. Il faut reconnaître que toute mort violente d'un compatriote, d'où qu'il soit, doit être condamnée. Ces événements de l'Ituri interviennent au lendemain des ceux aussi survenus à Kakenge, dans les territoires de Bénédicte, dans les territoires de Moïta, ce qui est regrettable. Absence de l'État ou pas, je sais que il existe toujours des gens qui tirent les ficelles. Vous savez que chaque fois que le Congo s'approche vers les élections, il y a des ceux qui, sachant qu'ils ne peuvent pas facilement aller aux élections et les emporter, qui cherchent toujours des situation confuse. Ici, je ne voudrais pas qu'on puisse lier ce qui arrive à Ituri à l'application de l'accord pour lequel deux prisonniers parmi les plus emblématiques ont été libérés la semaine dernière, notamment le professeur Boni Koubé et l'autre. Donc, je suppose que c'est un malentendu entre ethnies, communautés, comme on le sait souvent, un problème des terres, et que l'État doit prendre ses responsabilités à main. J'ai entendu l'alerte lancée par le président de la CENI qui s'inquiète de la recrudescence de cette insécurité qui pourrait impacter sur le processus électoral. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Congolais s'apprêtent à voter le 23 décembre. Faudrait pas qu'il y ait des situations malheureuses qui puissent encore une fois nous faire louper ce rendez-vous historique qui doit marquer l'alternance de notre pays.
Alors,
donc, je crois que tous les efforts à cet instant doivent être déployés pour que le calme revienne à la fois à Ituri et que partout, sur toute l'étendue de la République, partout où il y a des poches de résistance, partout où il y a des troubles pour que les élections se tiennent. Mais entre-temps aussi, je mets en garde tous les manipulateurs, tous ceux qui tirent les ficelles, tous ceux qui cherchent à créer des situations un peu plus compliquées d'insécurité pour justifier soit la non-tenue des élections ou pour faire en sorte que certaines régions du pays ne connaissent pas ce rendez-vous historique.
Jean-Pierre Kayembe, merci. Vous n'êtes pas le pape, mais puisqu'il s'agit des vies humaines, en 10 secondes, quel message pourriez-vous adresser aux deux communautés qui se battent en ce moment?
Non, un message à la cohabitation pacifique. Que nous pouvons vivre ensemble en dépit de nos différences, c'est-à-dire tisser les ponts par-dessus nos frontières, ce que l'on appelle le common ground. Ils doivent comprendre que ils sont tous Congolais et que nous n'avons que ce Congo.
Gaston Mouchide, votre message aux deux communautés?
Il faut éviter la guerre parce que dans la guerre, tout le monde perd. Même celui qui croit avoir gagné la guerre, il perd toujours quelque chose. Il n'y a rien de plus puissant que la non-violence. La RDC a déjà trop souffert. Il faut vraiment que l'on maintienne la paix, que les tireurs de ficelles arrêtent et que le peuple MLN autour d'une table et discute pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent.
Marcel Ngoy, votre message.
Oui, je pense que le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique et que ce pays a vocation à être le passage obligé pour le développement, le décollage de toute l'Afrique. Et en tant que tel, le Congo a intérêt à avoir en son sein des structures et surtout des institutions fiables, capables de mener ce pays vers le rôle de locomotive qui est le sien.
Alors.
Donc je suis en train de penser que le processus électoral, lorsqu'il arrive, lorsqu'il est bien installé, bien institué, et qu'il y a la participation de toute la classe politique, et on a une vue commune, par rapport à ce qui va arriver, ce processus-là est porteur du bonheur.
Merci beaucoup, si, Marcel Ngoy. Merci. Oui. Votre journal a totalisé 17 ans mercredi dernier. Je souhaite d'autres années encore, derrière les 17, peut-être 3-0 encore d'années d'existence merci. Pour votre journal. Merci de nous avoir suivis. Guy Mathieu était à la réalisation, Jean-Noël Mokondo à la technique. Tribune de la presse pour ce soir, c'est fini. Au revoir et à la prochaine.